La société attend de nous qu'on travaille, mais en tant que personne handicapée, la société actuellement ne nous donne pas la qualité de vie qui serait un strict minimum pour vivre correctement. Ça n'existera jamais pour nous. Ce qui veut dire qu'on a double peine par rapport aux autres.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses, on se met au travail à tout prix. À quel prix ?
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une sorte de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle. Épisode 6.
Tous les chômeurs ne sont pas inadaptés. Et tous les parano-psychos ne sont pas des chômeurs. Le travail rassemble, mais les psy lésés sont souvent renvoyés avant d'être embauchés. Qu'est-ce que tu fais de ta peau quand t'as zéro coefficient de sociabilité? Tu vas en établissement spécialisé. Schizo, tout juste sorti de l'hôpital. Ta mère te dit d'aller bosser, mais tu peux à peine sortir de ton lit le matin. Parce que dans ta tête, c'est le carfan d'un homme infernal. C'est un boulot à temps complet d'essayer de rassembler ses esprits. Dis-leur aux autres qui t'imposent ce que t'es pas capable d'assurer. On te traite de feignant et tu voudrais bien faire, on te dit. Ce n'est pas la peine de revenir au boulot demain matin et tous les autres matins. Si certains bossent, d'autres sont épuisés. Comme Fleur, Amélie et Franck.
J'ai commencé une licence d'art plastique, mais je savais très bien que ça allait pas être une formation professionnalisante en fait, parce que je savais pas où est-ce que j'allais aller avec ça. Donc j'ai fait pendant 2 ans et j'ai essayé de faire la 3e année, mais je suis tombée en dépression une première fois à ce moment-là. Donc je me suis orientée finalement en L3, je me suis réorientée en sciences de l'éducation.
J'ai été un vrai prof. Alors d'abord d'espagnol entre 92 et 94, j'étais vacataire, c'est-à-dire c'est le plus bas niveau de professeur. Donc je faisais les petits remplacements à partir de 3 semaines. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ben, il n'y avait plus de remplacement en espagnol, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont nommé maître auxiliaire, mais en anglais. Ben, heureusement j'avais les deux langues, j'avais fait LEA.
En fait, de suite après mes études, j'ai fait un service civique d'abord dans une association à Nantes. C'était une association où on devait un petit peu organiser des actions de bénévolat et accompagner les gens sur place et faire l'action avec eux, en fait.
Pendant l'année, j'avais une tutrice. Alors, il fallait faire les cours carrés, comme ça. Il y avait une certaine pression. Et puis, je n'ai pas fait gaffe. J'ai complètement disjoncté. C'était aux vacances de février. Je me rappelle, je montais un meuble Ikea, j'étais épuisé nerveusement. Il faut faire très attention quand on est prof, c'est l'épuisement, et nerveux surtout. Donc j'ai pas fait attention, il y avait de la pression cette année-là. J'ai fait des choses, je voulais partir en Israël, et je suis allé à Saint-Nazaire, enfin j'étais délirant, complètement perdu, idée délirante pendant 2 mois. Alors là, il faut être enfermé parce que c'est mieux, hein. Avec le recul, on comprend ça. J'ai fait une direction hôpital psychiatrique. Et puis voilà. Et ben oui, après j'ai pas repris. Là j'ai commencé à avoir des entretiens avec un psy. J'ai fait une petite rechute. Il m'a repris 2 mois pour une petite dépression. Alors, j'avais du mal à reprendre. J'avais du mal à reprendre. Ouais. J'ai essayé. Et puis j'avais cette fameuse inspection. J'en ai eu 3 sur 3 années. Et puis à chaque fois, ça s'est mal passé. Alors la dernière année, oh là, ils m'ont fait. J'avais que 4 classes. C'était un collège. Il y avait 4 classes et me tapaient dessus de manière différente. Mais... Et je pense que je n'étais pas à 100% non plus aussi. Et ça, ils le sentaient. Et mais ils appuyaient là où ça faisait mal. Oh, c'était infernal. La dernière année, infernal. Ah, quand ça allait mal, c'était le volcan, ouais. J'avais plus de moyens de contrôler, ouais. Alors là, on est tout seul, et tu prends des coups, puis hein, ça craque, ouais. Ouais, c'est normal, ouais. Ça arrive.
Le milieu du travail, pour moi, était très difficile. J'ai eu des expériences, mais ça n'a pas été... Et je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible pour moi, en fait. Je suis hypersensible au bruit, hypersensible à la lumière, je stresse très facilement. Et en fait, l'enseignement en soi n'a jamais été un problème. J'ai toujours eu un très bon contact avec les enfants. Ça passe très bien. Mais il y a tout ce qui est autour, en fait, qui complique les choses. Et aussi tout ce qui est relationnel avec les collègues. J'ai énormément de mal à sociabiliser parce que je ne m'intéresse pas à ce qui intéresse la plupart des gens. Et la plupart des gens, ils vont avoir des conversations sur des sujets très personnels et très terre-à-terre de la vie quotidienne. Ils vont parler de leurs enfants, ils vont parler de leur vie de couple, ce genre de choses. Et moi, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas du tout, en fait, et qui ne me parlent pas. Je n'aurais pas pu aller manger avec mes collègues à midi parce que aussi j'ai besoin de tranquillité. Et en plus, je fatigue très, très vite. J'ai très, très peu d'énergie dans une journée. Je me suis rendu compte aussi pour ça que le métier d'enseignant n'aurait pas été possible, parce que pendant mes journées de stage, je revenais chez moi, j'étais morte. C'est pas grand chose en soi, mais déjà rien que ça, je me suis rendu compte que c'était épuisant pour moi. Ça a été horrible et je me suis dit, mais c'est pas possible, si le monde du travail c'est ça, je pourrais pas, en fait.
Le contact avec le public, c'était très compliqué parce que c'était très fatigant déjà pour moi. Voilà, quand je rentrais chez moi aussi, j'avais besoin d'une coupure totale. Sur les 6 mois en fait de service civique, j'ai été en arrêt entre guillemets. Enfin, j'ai pas pu faire mon service civique pendant 3 mois en fait. Je pense que j'avais le contre-coup de mes études aussi, donc j'étais aussi dans une période dépressive et une période de forte anxiété aussi. Et j'ai vraiment aimé mon service civique, mais ça a été quand même très compliqué d'aller au bout.
J'ai fait une grande dépression quand j'avais plus de travail. Alors ça, c'est... Ah oui, on s'écroule. La dépression, c'est vraiment une maladie. 8 mois, hôpital psychiatrique. Entre août, c'était 2005, et mars 2006. Oh là là, la dépression, je n'ai pas vu venir aussi. Je me suis écroulé. Ah, c'est difficile. Ouais. Les idées délirantes, on a des idées plein la tête et il n'y a aucune idée qui est bonne. Dépression, on n'a plus envie de rien faire. C'est dur parfois de tenir debout de choses bêtes. Hein. Prendre une douche, se raser, c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, maintenant, je me rase. J'aurais fait une grimace dans la glace. Mais c'était des moments terribles. Les 8 mois où j'ai été complètement à Saint-Jacques. Ouais. Moi, je me rappelle, il y avait eu de la neige, un peu de neige. C'est des images comme ça. Mais là, je me suis commencé à sentir un tout petit peu mieux. Quand on était plus qu'à l'hôpital de jour, une quinzaine, ça m'a fait un petit truc bien. J'étais 3 ans, ouais. Et moi, je voulais y rester. Et puis après, on m'a dit, ben, il faut aller vers le CATTP. Alors, CATTP, qu'est-ce que c'est ? C'est Centre d'aide thérapeutique à temps partiel. On m'a dit, bon, il faut passer à une autre structure. Je dis, moi, je veux rester là. Alors là, c'est un hôpital de jour un peu light. On choisit ses activités. Et puis, voilà, on participe quand on veut. Voilà, c'est plus obligatoire, on est volontaire.
J'ai coupé les ponts avec ma mère il y a assez longtemps pour cause de maltraitance. J'étais en plein milieu de mes études à ce moment-là. J'ai repris contact avec mon père avec qui je n'avais plus de contact depuis 11 ans. À cause des problèmes familiaux. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer qu'il avait cette idée en tête qu'on ne peut pas ne pas travailler, il faut forcément avoir un travail. Et moi, en plus, c'était assez vicieux parce qu'en fait, je ne pouvais pas avoir de discussion avec lui déjà sans qu'il ramène le sujet. Mais surtout, il me rabaissait constamment sur mes opinions, notamment mes opinions politiques, puisque selon lui, je n'avais pas d'avis à donner puisque je ne payais pas d'impôts et que je ne travaillais pas. Donc en fait, j'avais juste le droit de me taire. J'allais très très mal à ce moment-là. J'avais été obligée d'aller vivre chez lui juste après la fin de mes études. Et j'étais tombée en dépression, puisque en fait, c'est un peu chronique chez moi. C'est pas le seul problème, mais voilà, c'est un des problèmes. Et en plus de ça, avec le vécu familial qui avait été très lourd, je n'arrivais pas à me projeter en fait dans la vie.
Et c'est vrai que j'avais beaucoup de pression de la part de mon entourage familial pour faire des études, finir les études, trouver un travail. J'étais très enfermée là-dedans en fait. Je voulais faire de l'enseignement, mais finalement, ça ne va pas être possible. J'adore le fait voilà, de m'enrichir aussi intellectuellement et de transmettre des choses. Mais le contexte dans lequel ça s'exerçait, avec la fatigue accumulée, le stress lié à la gestion de la classe, la préparation des cours, pour moi, c'était trop, en fait, de sollicitations. Et après, j'ai eu des questionnements plus généraux sur le travail où je me suis dit, mais en fait, déjà, mentalement, voilà, je ne suis pas disponible pour ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai été en arrêt maladie très vite et que j'ai fait une demande d'allocation adulte handicapé, mon père avait vraiment du mal à comprendre que je puisse décider de vivre avec cette allocation, en fait, et de ne pas travailler. Ouais, il me répétait sans cesse que c'était de l'assistanat de vivre avec les aides et qu'il fallait que je travaille et qu'il fallait que j'aille mieux, en fait, pour avoir une vie normale. Et quand j'ai été confrontée au monde du travail, je me suis dit que c'était pas possible, quoi. Enfin, mon corps m'a fait comprendre que c'était trop de stress et en fait, j'ai réalisé que j'avais pas non plus envie de travailler, que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, quoi.
Après la dépression, ben on apprend qu'on peut remonter, on sent les petits pas, on remonte tout à petit l'escalier. Et le GEM fonctionne drôlement bien, moi, ça m'a remis en selle. Je suis remonté sur mon cheval. Là, je suis allé tout doucement, j'étais encore un peu fragile, parce qu'au GEM, il n'y a pas de soins. Hein. Et puis après, il y a eu la remontée tout doucement. Tout se remet un peu en marche, enfin, beaucoup de choses se remettent en marche, quoi. Hélène Fiodo m'a dit, Franck, est-ce que tu pourrais faire un cours d'anglais? J'ai dit, je réfléchis. Parce que moi, il m'avait tellement cassé les pieds, les adolescents, que l'anglais, pour moi, c'était fini. J'ai dit, je réfléchis, je te donne ma réponse demain. C'est un cours d'anglais pour les adultes. Et puis, ils sont volontaires. Bon, j'ai dit, banco, on y va. On a commencé très simplement avec deux tréteaux et une porte repeinte. Ça faisait... la table des élèves, et moi j'avais un tableau blanc avec des feutres. Et ben c'est parti comme ça, avec un cours. Et le fait de faire cours, de voir qu'on peut servir encore à quelque chose, qu'on peut donner encore de soi, et ben n'empêche, ça fait drôlement du bien pour l'image personnelle. On remonte encore, et on remonte dans son estime et dans l'estime des gens. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Donc petit à petit, on remonte. Alors j'ai retrouvé un petit semblant de confiance, je pense, ouais. Et puis oui, ça me refait plaisir de refaire de l'anglais. Mais au bout de 2 heures, je me rends compte que je suis fatigué. Alors ça, c'est sûr, quand on est prof, on a 18 heures, 6 classes. Oh, ben là, je me rends compte que je ne pourrais plus. Hein. J'ai une pension d'invalidité parce que à la CPAM, ils ont trouvé que ça m'avait tapé sur les nerfs. Donc j'ai un taux d'incapacité. Et oui, ça, 18 heures, c'est fini. Hein.
J'ai pu finalement partir de chez mon père. J'ai obtenu un logement d'abord temporaire, d'urgence. Et ensuite, j'ai pu obtenir un logement social. Donc là, déjà, ça m'a aidée parce que j'ai retrouvé aussi confiance en moi et un peu de retrouver mon autonomie. Je vivais avec le RSA à ce moment-là. Et donc, j'ai pris la décision de couper les ponts avec lui aussi, puisque du coup, c'était plus possible, en fait. Et je me suis rendu compte par la suite que ça avait été une excellente décision, puisqu'en fait, mon niveau de stress a considérablement baissé à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé à sortir de ma dépression, en fait, quand j'ai coupé les ponts. Et du coup, maintenant, ça va mieux. Ben, en fait, la seule option qui nous reste, effectivement, ben, c'est l'AH. Mais j'avais énormément de mal à accepter l'idée de demander l'AH parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en contact avec mon père et que j'avais toujours cette pression de me dire « mais je vais vivre comme une assistée, justement ». Et en fait, mon psychiatre m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée à lâcher prise justement par rapport à cette idée-là. Il m'a dit, ça coûte moins cher à la société de vous payer 900 euros par mois que de prendre le risque que vous finissiez en hôpital psy où là, ça va coûter 500 euros par jour à la sécu. Et donc du coup, ben, je l'ai fait et depuis que je l'ai, mon niveau d'angoisse a considérablement baissé parce que j'ai plus cette pression au-dessus de mes épaules.
Ça va passer à 974 effectivement, en raison de l'inflation notamment, ils ont décidé d'augmenter, ça couvre les dépenses du loyer, de l'alimentation et voilà, j'ai pas un train de vie non plus faramineux, je suis pas du genre à dépenser beaucoup. Donc bah, ça me suffit en fait pour vivre et ça me soulage même d'avoir ça en fait parce que j'arrive à être indépendante financièrement et j'ai pas nécessairement besoin de passer par le travail pour ça.
Oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Il faut faire attention, il faut un loyer social, bon c'est toujours dans ta vita, le loyer avec la PL est pas cher. Il faut aller vers un restaurant social, toujours. Par exemple, grâce au GEM, j'ai découvert Agnès Varda, l'espace Agnès Varda. Là, il y a un restaurant où on peut manger pour 1,75€, un repas complet. Ils ont maintenant aussi, ça fait 2 ans, c'est neuf, des douches aussi, une bagagerie. Ouais, faut faire loyer social, repas social. Ah ouais, mais oui, faut faire attention, oui.
Pour moi, il n'y a pas de honte à vivre avec des aides parce que si elles existent, c'est bien pour que voilà, des personnes puissent en bénéficier, que ce soit ponctuel ou sur un plus long terme. Techniquement, ce sont les bourgeois en fait, qui se nourrissent du travail des autres, qui sont des assistés. En fait. L'assistanat, c'est quelque chose qui est propre à la bourgeoisie. Et franchement, on a érigé le travail comme quelque chose qui est nécessaire à la construction de l'individu, à l'épanouissement, alors que ça peut être vecteur de beaucoup de souffrances aussi, physique et morale. Et on a fait presque une valeur morale, en fait. Les personnes qui ne travaillent pas, elles sont perçues comme des personnes qui n'ont pas de valeur, qui sont marginales, alors qu'on peut tout à fait s'épanouir autrement.
On a tenté l'aventure. Ouais, je pense que c'est une belle aventure. Tant que j'aurai du plaisir, et je pense que j'en ai encore, à venir au GEM et à faire le cours d'anglais, je ferai ça.
Moi, je crains vraiment le jour où on tombera sur un gouvernement anti-personnes handicapées qui décidera que si on n'est pas valide, on sert à rien et qui décide de couper toutes les aides. Vraiment, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille parce que ce jour-là, je pense que je continuerai pas la vie, très honnêtement.
Et puis rappelez-vous, les vrais assistés, ce sont les bourgeois.
De l'hélium dans le sang, check la vue du dessous. On tiendra pas longtemps à ce rythme de fou. Personne aux alentours, laissant passer.
Épisode 7, la famille fait face ou s'efface.